France Inter, le 7-9, intervenez.
Et nous sommes toujours avec Hélène Philly pour la suite de notre entretien avec Raphaël Pitti. Je rappelle que vous êtes médecin humanitaire, chirurgien de guerre, que vous vous êtes rendu une vingtaine de fois en Syrie. Vous avez témoigné du drame d'Alep, Raphaël Pitti. Vous êtes en lien permanent avec les Syriens qui vivent aujourd'hui dans la Ghouta. Avant de filer au standard, un mot peut-être pour nous dire comment vous en êtes venu à travailler avec la Syrie. Comment est-ce que vous en êtes venu à former des médecins sur place, des personnels médicaux avec des missions clandestines plus d'une vingtaine de fois là-bas, depuis le début du conflit? Quel a été le déclic pour vous?
C'était un matin en 2012, au mois de septembre 2012. Je me rendais justement de Metz à Nancy à la polyclinique de Gentilly, puisque c'est dans cette polyclinique de Gentilly que je travaillais. C'est le matin, dans ma voiture, j'écoute France Culture. Excusez-moi, c'était pas France Inter.
Vous avez le droit et on les salue, nos amis de France Culture.
J'écoutais France Culture et l'interview d'un médecin qui appartenait à l'USSM, Ahmed Banané, qui expliquait qu'en Syrie, les hôpitaux étaient détruits, ciblés volontairement, et que les médecins, quand ils étaient arrêtés, étaient torturés, tués, parce qu'ils avaient soigné des personnes, soit des rebelles éventuellement, qui venaient dans ces hôpitaux, soit éventuellement la population qui avait été bombardée. Ils étaient considérés eux-mêmes comme des rebelles. Alors cela m'a interpellé d'une manière profonde, mais vraiment très très profonde. J'ai une carrière de médecin militaire, je suis allé dans de nombreuses zones de crise.
Et de conflit.
La première guerre du Golfe, que ce soit la Yougoslavie, ou ailleurs, en Afrique et ailleurs. Jamais je n'avais assisté, j'avais entendu cela. Alors, j'ai tout simplement envoyé mon CV en disant je veux aller voir médecin militaire. Donc, la guerre en elle-même ne me posait pas de problème que d'aller dans une zone de conflit. J'y avais déjà été.
Oui.
Donc, ce qui me paraissait important, c'était de comprendre. Et ce que j'ai compris quand j'y suis allé, c'est qu'au bout de 3 jours, l'hôpital dans lequel j'ai travaillé a été bombardé.
Parce que c'est une stratégie depuis le début du conflit. Le régime de Bachar el-Assad détruit les hôpitaux, voilà. Y envoie des hommes armés, des groupes armés pour achever ceux qui sont blessés ou qui sont en attente de soins.
Absolument, c'est vraiment terroriser la population, faire en sorte que cette population qui était dans des zones considérées comme libérées par les rebelles ne puisse pas être en situation de paix avec les rebelles. Il n'y a pas de paix en dehors de Assad. Vous ne pouvez pas vivre tranquillement en dehors de Assad. Et donc, systématiquement, tous les lieux de vie, les hôpitaux, les marchés, les écoles, etc., étaient systématiquement ciblés par le régime et détruits par le régime. C'est exactement ce que j'ai vécu, puisque au troisième jour, l'hôpital dans lequel je travaillais, vers 4h du matin, a été bombardé. Et je suis parti ensuite dans une autre ville qui était la ville de Al-Bab, une ville de 100 000 habitants. L'hôpital était déjà détruit. J'ai travaillé pendant une semaine dans un hôpital clandestin, dans une grande villa d'un dignitaire qui était transformé en hôpital. J'ai quitté le 6 octobre, le 17 octobre. Cet hôpital a été entièrement détruit par 2 passages de bombardiers et nombre de personnels soignants que j'ai connus avaient été tués.
Combien de personnes avez-vous formées sur place et n'êtes-vous pas désespéré de voir qu'ils ne peuvent pas travailler puisqu'ils sont systématiquement pris pour cible? C'est ahurissant de le dire.
Je pense que véritablement en Syrie, les héros de cette guerre en Syrie sont les soignants, véritablement. Ils sont l'endroit le plus dangereux maintenant, c'est l'hôpital. Et chaque jour, les personnels retournent dans leurs hôpitaux pour soigner, continuer à soigner. Quand l'hôpital est détruit, eh bien, on essaie de récupérer dans les ruines ce qui peut être encore utile et on reconstruit de nouveau un hôpital dans la clandestinité, dans des caves, y compris dans des mines abandonnées, etc. Les Syriens et le personnel soignant en Syrie écrit une page de l'histoire de la médecine. Jamais un peuple ne s'est trouvé dans cette situation sans recevoir véritablement d'aide de l'extérieur. Aucune grande ONG ne rentre à l'intérieur, oui. Même si elle apporte son soutien de l'extérieur, elle n'apporte pas, elle n'est pas présente là-dessus, à l'intérieur de la Syrie. Et c'est les Syriens, aidés par ceux qui sont à l'étranger, qui arrivent justement à poursuivre les soins pour cette population.
De nombreuses questions au Standard Inter, Raphaël Pitti, pour essayer de comprendre, beaucoup de demandes pour essayer d'avoir les idées claires sur ce qui se passe dans la Ghouta. Et nous sommes en ligne avec Denis. Bonjour Denis.
Oui, bonjour.
Votre question à Raphaël Pitti.
Alors, voilà. Je voudrais savoir pourquoi on ne nomme pas, c'est-à-dire pourquoi vous utilisez le mot globalisant de groupes rebelles, et pourquoi on ne nomme jamais les groupes salafistes qui s'y trouvent, comme Al-Qaïda, comme Daesh, qui là, semblent devenir de petits agneaux. Et ces mots globalisants que vous utilisez systématiquement, je ne comprends pas non plus pourquoi on parle d'islamisme alors que ça peut jeter le discrédit sur l'ensemble des musulmans, alors que par exemple tous les attentats commis en Europe l'ont été par des salafistes. Pourquoi ne nommez-vous jamais les salafistes? Pourquoi ne nommez-vous jamais les groupes salafistes qui combattent en Syrie?
Merci Denis. Alors on sait que les mots ont leur importance. Que répondez-vous à Denis, Raphaël Pitié?
Je suis tout à fait d'accord avec lui, mais je suis dans une position humanitaire. Je m'intéresse qu'à la population syrienne, celle qui est prise au piège par les rebelles, bien évidemment, mais aussi par le régime. Et aujourd'hui, ce qui est le plus destructeur pour cette population, c'est le régime qui l'est le plus. Je ne dis pas du tout que les musulmans de Syrie n'ont pas souffert de Daesh, bien évidemment, comme ils ont souffert aussi des salafistes, bien évidemment, parce qu'ils sont pris au piège dans un combat qui, aujourd'hui, ne les regarde plus. Il y a 20 millions de personnes qui sont pris au piège à l'intérieur de la Syrie. Je suis d'accord qu'il y a des rebelles, que Daesh est une ignominie épouvantable.
Oui, vous ne le niez pas.
D'accord, je ne nie pas du tout, mais pas du tout. Moi, ce que je vois, c'est ce que cette population-là est pris au piège de cette guerre effroyable et contre laquelle cette population, elle aura tout subi, toutes les armes possibles et inimaginables, la faim, y compris la faim. Et donc, c'est par rapport à cette population que je lance ce cri d'alarme.
Hélène Philippe.
Vos contacts, vous le disiez, sont nombreux sur le terrain, mais les informations, à l'image de l'interrogation de l'auditeur, sont parfois difficiles à vérifier, avoir une idée précise de qui fait quoi, qui attaque, à quel moment. Est-ce que vous comprenez le choix qui a été fait par le média, un média lancé par des proches de Jean-Luc Mélenchon, de ne pas montrer des images de ce qui se passe en ce moment en Syrie, défendant justement le fait que des informations peuvent être difficiles à vérifier?
Écoutez, je pense qu'il y a le témoignage est très important, bien évidemment, plus que les images, puisque de toute façon, à quoi servent les images? Puisque des images d'horreur, il y en a constamment. Et est-ce que ça modifie, quelle que soit la position des personnes? Est-ce que ça les engage immédiatement à vouloir agir pour essayer de préserver cette population? Pas du tout.
Je vous renvoie la question, oui.
Pas du tout. On voit depuis 7 ans, on assiste bien évidemment à une situation qui est une des plus grandes catastrophes humanitaires depuis la dernière guerre. C'est bien comme ça que la communauté européenne a décrit cette situation en Syrie. Il y a une destruction du tissu sanitaire, il y a une destruction du tissu économique, il y a une destruction du tissu social, il y a une destruction du tissu éducatif en Syrie. On compte 450 000 morts du fait de la guerre et on ne compte pas les milliers de morts qui sont, voire millions de morts qui sont secondaires à l'absence de soins.
Qui n'ont pas été tués directement par des balles ou par des bombes, mais qui n'ont pas pu être soignés.
Qui n'ont pas été soignés. On voit ces 10 millions de personnes qui ont fui leur habitation, 5 millions à l'extérieur qui vivent dans des camps. On est dans une crise humanitaire de très grande ampleur. Que faisons-nous par rapport à cette crise humanitaire?
Ce que vous dites, c'est que les images n'ont pas réussi à faire bouger la communauté internationale.
Pas du tout. Mais le petit Ryan sur la plage, mort, etc. Est-ce que ça a empêché... Le petit Ilan, pardon. Est-ce que ça a empêché, est-ce que ça a permis d'ouvrir toutes nos frontières pour accueillir dignement les réfugiés syriens?
Mais c'est pourtant une voix que vous avez entendue sur France Culture qui vous a donné envie de vous impliquer. On va retourner au standard avec Loïc. Bonjour Loïc.
Oui, bonjour, merci de prendre mon appel.
Vous avez une question pour Raphaël Pitié?
Oui, tout à fait. J'aurais aimé savoir comment se passait votre tour en France. Est-ce que vous avez un suivi pour pouvoir être mieux à même de digérer tout ce que vous avez vécu là-bas? Et j'aurais aimé savoir qu'est-ce que vous conseillez à vos confrères ou à des infirmiers qui voudraient partir là-bas pour se préparer psychologiquement à ce qu'ils vont vivre.
Voilà. Raphaël Pitié.
Alors vous avez bien raison, c'était très très difficile pour moi. J'avais a priori après mon retour environ 2 semaines de déprime, je dirais, de difficulté à retourner dans mon service de réanimation, car je suis réanimateur et urgentiste et je ne suis pas chirurgien. Et donc il y avait une très grosse difficulté pour moi à reprendre une activité de réanimation normale dans mon service, dont j'avais la responsabilité. Et si bien que au bout de 3 ans, j'étais obligé de quitter. Oui, j'ai senti que je ne pouvais plus continuer cette activité de réanimation réglée. En France, et donc j'ai fini par quitter mon activité dans mon hôpital. Alors, j'avais ces deux semaines de déprime, bien évidemment. J'ai la foi. Alors, je vous le dis des choses aussi franchement que vous me posez. Je crois en Dieu et cela me porte. Et cela me porte et j'essaye d'être là où je dois être. Et aujourd'hui, je suis près de cette population syrienne, et en particulier près de mes collègues en Syrie qui sont dans une situation extrêmement difficile. Vous pouvez l'imaginer, extrêmement difficile. Et malheureusement, pour les médecins occidentaux qui voudraient aller en Syrie, c'est impossible. C'est impossible d'y aller, c'est impossible de rentrer. C'est impossible de rentrer maintenant. Même pour moi, qui suis allé 21 fois clandestinement en Syrie. Aujourd'hui, la Turquie a construit un mur de 900 kilomètres qui est bourré d'électronique et donc c'est extrêmement compliqué de traverser la montagne pour rentrer. Et essayer de rentrer par l'Irak en traversant le Tigre, du fait de la situation du Kurdistan irakien, ça rend aussi très compliqué de pouvoir rentrer en Syrie. Et donc,
malgré cette trêve quotidienne qui dure quelques heures, malgré ce couloir humanitaire, pour employer le mot qui
c'est
convient,
c'est extrêmement compliqué.
C'est impossible de venir en aide aux populations.
Ça l'est possible. C'est possible, bien évidemment, avec l'autorisation des autorités turques, par exemple, au travers des postes frontières de Bab el Hawa ou de Salamé. C'est possible avec la Jordanie, quand la Jordanie accepte de faire rentrer les convois de l'ONU, c'est possible, mais tout se négocie, bien évidemment, tout se négocie, tout devient complexe et compliqué après 7 ans de guerre.
Hélène.
Vous avez rendu votre Légion d'honneur, Raphaël Pitti, sur fond de désaccord avec la politique d'accueil des réfugiés d'Emmanuel Macron. Que pensez-vous de la loi Asile et Immigration ?
Eh bien, elle me convient pas du tout parce que, bien évidemment, le côté répressif est bien mis en avant et c'est ce que je conteste. Vouloir, par exemple, considérer qu'il y a deux types de demandeurs d'asile, ceux qui sont des migrants économiques et ceux qui sont des réfugiés de la guerre, ça, je l'entends bien, qu'il y a effectivement des... Mais d'un autre côté, si on voit la réalité, qu'est-ce qu'un migrant économique que lorsque l'on vient d'une zone du Sahel, qui a connu la désertification depuis 10 ans, qui dans lesquels les gens sont affamés en même temps, qu'ils vivent une situation de violence entre les différents villages pour se voler les réserves qu'ils peuvent avoir de blé, etc. Et que ces populations-là, affamées, prennent le risque de traverser et le désert, de traverser la Libye, de traverser la mer. J'étais à Lampedusa, je les ai vus arriver et les voir arriver, on comprend que c'est un non-retour. C'est un aller pour non-retour. Alors, arrivant ici chez nous...
La France n'est pas les terres d'accueil qu'elle est censée être.
Pas du tout. Elle ne l'est pas du tout. Et je suis à Metz et je suis conseiller municipal à Metz, en charge justement de cette problématique des migrants. Quand je vois, année après année, les conditions que nous leur faisons, ils sont sur des parkings, sans eau, sans toilettes, sans rien, en attendant de pouvoir être hébergés par l'État, ces conditions sont inhumaines, elles ne sont pas dignes de notre pays. Et c'est ce que j'ai voulu exprimer en rendant cette promotion que m'avait faite Emmanuel Macron.
Mais alors, comment convaincre l'opinion publique, Raphaël Pitti, puisque vous êtes médecin humanitaire engagé, mais à un moment, il faut convaincre ceux qui font la démocratie.
Écoutez, on entrevoit les migrants que le côté négatif, que le côté sécuritaire. C'est utilisé à la fois par nos hommes politiques pour dire, voilà. Et puis si vous parlez beaucoup trop des migrants, vous faites monter en même temps les populistes. Et regardez ce qui se passe en Hollande, regardez ce qui se passe en Hongrie, regardez ce qui se passe dans tous les pays. Vous faites monter, alors il ne faut pas en parler, il ne faut pas faire d'appel d'air, il ne faut pas les faire venir parce que ça fait monter les populistes, etc. Et en même temps, on parle de sécurité, mais on n'entrevoit pas en même temps la souffrance des personnes. Moi, ce que je voudrais, c'est comme l'auditeur de tout à l'heure, qu'on s'occupe des personnes, que l'on s'occupe des individus, que l'on s'occupe de l'humain, que l'on arrête de faire de la politique, mais qu'on voit qu'il y a des hommes et des femmes qui ont une histoire et que nous devons les accueillir avec dignité. Après, bien entendu, il nous faut une organisation pour recevoir ces personnes. Elles ont le droit, individuellement et inconditionnellement, de faire une demande d'asile. Il appartient à l'OFPRA de décider si cette personne peut ou pas. Il appartient à l'État, si la personne, après tous les recours, puisque nous sommes un État de droit et que l'on aura refusé la demande d'asile, eh bien, il appartient à l'État de raccompagner ces personnes chez elles. Il y a un laxisme dont les Français ne peuvent même pas imaginer le laxisme dans lequel est notre gouvernement. Il y a un laxisme total, alors même si maintenant on tente de vouloir organiser avec fermeté, n'empêche que D'accord. Il y a un laxisme.
Merci Raphaël Pitty, merci pour ces paroles fortes. Je signale que vous publierez dans une quinzaine de jours, le 15 mars précisément, un témoignage exceptionnel. Va où l'humanité te porte, un médecin dans la guerre. Ce sera aux éditions Taillandier. Vous restez avec nous pour la chronique de Frédéric Becbédé.
Merci, oui.